France Culture.
Quand le sexe n'est pas un oubli de soi, il est une désolation. Nine Antico. Je suis née retroussée. Fanny Michaelis, c'est pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à Rebrouchère ce soir avec ses deux invités, deux divas du récit graphique contemporain, Nine Antico et Fanny Michaelis. La première qui publie sur le label Idoine Charivari chez Dargo, Obsession, une exploration vénitienne de son épopée intime érotique. La seconde qui nous offre chez Casterman, c'est ainsi que je suis né, l'histoire d'une fille née. Retroussé, et si qu'il en advint, de violence intime et sociale, chronique en second temps d'émission, signé Élise Lépine et Antoine Guillot. Mauvais genre à Rebrouscore, c'est maintenant dans Mauvais genre. C'était Aaron Stump il y a quelques temps, c'est Claudia Cardinale ce soir, après Robert Redford également. Monsieur Guillot, bonsoir.
Et bonsoir, François Angelier.
Coup de chapeau à Claudia Cardinale.
Oui, très, très étrange, Claudia Cardinale. En me replongeant un peu dans sa filmographie, mais surtout son histoire, je me suis dit que ça ferait une bonne héroïne pour Nine Antico. Parce que c'est quelqu'un qui a une vie assez dingo. D'abord, on l'a rappelé au moment de son décès, mais tout le monde l'avait oublié. C'est quelqu'un qui voulait pas du tout être actrice. C'est quelqu'un qui ambitionnait d'être institutrice dans sa Tunisie natale. C'est quelqu'un qui ne naît pas italienne, d'une certaine façon, même si elle vient d'une famille d'immigrés siciliens en Tunisie. Mais ça fait trois générations qu'ils sont là-bas. Donc l'italien, elle ne le parle pas du tout. Ses premiers rôles, d'ailleurs, au cinéma, ses tout petits rôles, ce sont des rôles de jeunes filles arabe, plus ou moins voilée. Et puis, par des concours de circonstances, elle se retrouve reine d'un concours de beauté, la plus belle italienne de Tunisie, parce qu'on l'a poussée sur scène alors qu'elle voulait pas se présenter. On l'envoie à la Mostra. Elle veut retourner vite fait en Tunisie pour faire son métier d'institutrice. Et puis, bon, finalement, elle y retourne. Elle aura toujours ce sentiment un peu d'illégitimité, de ne pas être une actrice, en fait. Et c'est ça qui fait les grandes stars. Kim Novak raconte la même chose. Hein. J'étais pas une actrice, j'étais juste là. J'essayais de faire avec ce que j'avais. Donc elle fait quand même 150 films en ne voulant pas du tout faire du cinéma, et avec cette première chose, donc ça fait parfait pour Nine Antico, mais surtout c'est quelqu'un qui a une histoire intime assez terrible. Il y a cette histoire qu'on a redécouverte d'un viol à 17 ans qui fait qu'elle aura un fils très vite, qu'elle fera passer pour son petit frère pendant longtemps. Le gamin lui-même croira que c'est sa grande sœur. Elle tombera dans les pattes d'un producteur italien, Franco Cristaldi, qui a vraiment une emprise totale sur elle, parce qu'il veut en faire à la fois la nouvelle Sofia Loren ou Gina Lollobrigida, mais aussi le pendant italien d'une Brigitte Bardot. Elle ira jusqu'à l'épouser, enfin tout ça, et puis elle finira quand même, mais très très tard, à se libérer et à trouver sa propre voie, et sa propre voie VOIE et VOX, parce que c'est aussi quelqu'un qui arrive en Italie, qui ne comprend pas l'italien, qui ne peut pas parler l'italien. Alors ça tombe bien, dans le cinéma italien, on se fait doubler en permanence, mais donc c'est pas sa voix
qui
la double. Il faudra attendre le 8,5 de Fellini, la même année où elle tourne Le Guépard, où elle est doublée par une autre actrice, pour que Fellini comprenne enfin que l'intérêt de ce personnage, c'est justement cette voix qui n'est pas raccord avec ce corps. Elle a une voix assez rauque, assez empêchée. Elle manie l'italien de mieux en mieux, mais enfin, c'est quand même pas ça. Et c'est ce qui fait l'intérêt, il me semble, de Claudia Cardinale, c'est justement tous ces contraires qu'elle a en elle. Elle garde très très tard cette tête de petite fille sur un corps de femme épanouie. Donc déjà, ça fait un chiasme assez intéressant à exploiter cinématographiquement. Et puis, cette voix qui n'était pas raccord non plus. Et je pense que les cinéastes qui ont su le mieux utiliser et jouer avec Claudia Cardinale à l'écran, comme Bolognini, comme Zurlini, le réalisateur de La fille à la valise, mais même comme Sergio Leone plus tard.
On entend d'ailleurs, là.
Saura jouer de ce côté, voilà, un peu clivé qu'il pouvait y avoir chez elle, et qui la rend une actrice moins évidente, sans doute, qu'une Sofia Loren, par exemple, mais peut-être plus intéressante dans ses, voilà, dans ses ruptures intimes. Donc on attend la biographie de Claudia Cardinal par Nine Antico.
Alors Nine Antico, réaction ?
Bah oui, pourquoi pas. En plus, je disais hors antenne juste avant, mais là, je commence à me poser des questions. Je disais que j'étais plus team Sophia Loren, mais là,
vous m'avez convaincu,
je signe.
Vous êtes plutôt Claudia Cardinal. Fanny Michaelis, ou alors vous êtes plutôt Sophia Loren ou Claudia Cardinal ?
Je disais que j'étais pas assez cinéphile pour avoir une team, mais que dans une nuit d'insomnie, j'ai lu toute la vie de Claudia Cardinal, du moins, enfin toute la vie Wikipédia de Claudia Cardinal, et que donc j'ai découvert avec beaucoup de voilà cette figure attachante que il faut que je découvre plus profondément au cinéma maintenant.
Élise Lépine, vous ?
Oui, moi j'ai aussi découvert au moment là de sa mort l'histoire notamment de ce fils qu'elle a eu, qu'on a fait passer pour son frère et qui est le fruit d'un viol. Enfin, c'est quand on commence à sortir de l'actrice pour regarder la femme, en général, on voit des choses encore plus touchantes et profondes que finalement dans certains films. C'est ça qui m'a
émise. En tout cas, on vous retrouve à la fin de l'émission, notamment pour des baignades de André Michaud,
autrice québécoise.
Absolument, en tout cas ce soir, Mauvais Genre, récit graphique, bande dessinée avec Fanny Michaelis et Nine Antico. Thomas Bangalter, irréversible, monsieur Antoine Guillot, c'est le moment crucial de présentation de nos invités. Mais est-ce besoin, puisqu'elles sont déjà venues, l'une pour Hôtel California, l'autre pour Les Noirs, mais c'était il y a un certain temps, donc il est temps de,
ah bah on avait parlé de
rafraîchir les mémoires.
On avait parlé de Madones et Putains.
Exact.
C'était il y a seulement 2 ans, François. Donc effectivement,
pour moi.
C'est un peu compliqué.
D'autant je l'ai noté. Le malheur.
Vous n'arrivez même plus à vous relire.
Ah, c'est vous dire le niveau.
Bah, je pourrais effectivement tenter, je voudrais pas trop me répéter, donc on peut tenter la présentation croisée de Nine Antico et de Fanny Michaelis. On pourrait dire que c'est parmi les meilleures nouvelles qu'on a eues dans les années 2010, c'est-à-dire dans la seconde génération des autrices, donc maintenant après les auteurs issus des grandes maisons indépendantes de la bande dessinée alternative qui était arrivée dans les années 90. Il y a un héritage peut-être de ce qui s'était passé 20 ans auparavant, en particulier nos excellentes maisons, l'association et Cornelius. Alors, l'association, même si Nine Antico a commencé, on pouvait la croiser dans les bureaux de Cornelius à une époque, comme elle l'a raconté dans son film Playlist. Et il faut dire, oui, c'est bien de Cornelius qu'il s'agit.
Je parlais de Nomaniac.
C'est quelqu'un qui... Alors, le point commun entre toutes les deux aussi, elles ont toutes les deux commencé par la musique. Alors, par la musique, Nine Antico, en dessinant dans les concerts, en apprenant son dessin sur le vif, en dessinant des concerts. Et puis Fanny Michaelis, qui est elle-même musicienne, avait commencé avec une bande dessinée sur Peggy Lee, figurez-vous, dans la collection BD Musique, BD Jazz. Et puis ce sont aussi des autrices qui, mais on va le voir maintenant dans ces nouveaux livres, évidemment travaillent beaucoup la question du corps féminin, de l'emprise, de la franchise, de la répression, enfin qui traversent leurs livres. Alors de manière très différente, Nine Antico, après un premier exercice autobiographique qui s'appelait le goût du paradis, s'est occupé de la vie des autres. Et la vie des autres, c'est des personnages aussi intéressants que Betty Page, Linda Lovelace ou Pamela Desbarres, la grande figure de fan de groupe de rock, des GTOs. Alors là, on en avait parlé, c'était pour l'Hôtel California. Et chez Fanny Michaelis, c'est passé par les voies, on pourrait dire, de l'expression de l'inconscient, alors que ce soit dans une forêt un peu mythologique, dans Avant mon père était un enfant, par une histoire de triangle amoureux, adolescent, psychanalytique, en banlieue, avec ce livre formidable qui était Géante, et ce livre dont elle était venue nous parler, Le Lait Noir. Qui était l'évocation là, à la fois d'une histoire familiale, puisque ça partait de l'histoire de votre grand-père qui avait fui Berlin dans les années 30 pour échapper au massacre antisémite sur place, mais qui devenait là encore une épopée un peu mythologique. Et puis voilà, on n'avait plus de nouvelles de vous, Fanny Michaelis, côté bande dessinée, depuis que vous étiez venue nous voir. Je ne sais pas si c'était parce que vous étiez passé à mauvais genre, mais en tout cas on a vu déployer...
Nous sommes fatales à nos amis.
C'était en 2016 quand même, donc il a fallu attendre, mais on la voyait partout, Fanny Michaelis, notamment dans les journaux, avec un grand travail d'illustration, et puis la glorification absolue, l'affiche foisonnante et magnifique de la BD à tous les étages au Centre Pompidou, la grande exposition que nous avions visitée, François Angelier, ensemble pour Mauvais Genre, elle était due à Fanny Michaelis. Il était temps qu'elle retourne à la bande dessinée. C'est fait, et c'est ainsi que je suis né.
C'est ainsi que je fais. Mesdames, réaction.
Bravo.
Aux éloges. Bravo.
Je vous ai marié, là.
Eh bien, ce soir, donc, on va en savoir un peu plus sur, je dirais, vos trésors et vos énigmes intimes avec ces deux albums qui paraissent chez Casterman et Charivari. Seberg, choisi par Laurent Polleray en ouverture de cette playlist en ce samedi. Alors Antoine, on a comme le sentiment qu'avec « Et c'est ainsi que je suis né » et « Une obsession » qui est à peu près un titre réversible, là du coup c'est des titres qui pourraient se confondre je crois. Est-ce qu'on pourrait même imaginer qu'un album porte le titre de l'autre et inversement? On a l'impression que c'est un thème commun, à la fois l'histoire des corps, l'histoire des genèses, l'histoire des souffrances, des évolutions, traitées de manière différente, l'une selon un mode qui est un peu plus, je dirais, une sorte de fable, une sorte de merveilleux, presque cauchemardesque, et l'autre un récit autobiographique avec un médium violent et puissant qui est Venise.
Oui,
mais quand même, on peut essayer de faire quelque chose d'équivalent.
Puisque vous voulez que je fasse du lien, on va essayer de faire du
lien. Faites du lien.
Faire du lien.
Fédérons.
Je pense que la question principale, enfin l'enjeu graphique et narratif de ces deux livres, c'est le corps. C'est le corps des femmes et comment, à la fois, on les regarde et comment elles regardent. Je crois que c'est d'abord ça, la question du regard qui est au centre de ces deux livres, qui après sont quand même sacrément différents. Et pas, alors on pourrait dire ils sont tous les deux en noir et blanc, c'est facile, mais je crois que c'est très différent parce qu'il y a des origines différentes. C'est-à-dire qu'à l'origine du livre de Nino Tico, il y a un texte, pour la première fois, alors qu'à l'origine du livre de Fanny Michaelis, il y a une image, ou des images. Voilà. Est-ce que là je ne me trompe pas déjà sur comment, malgré tout, on peut trouver des points communs et on va les explorer, mais au départ les origines sont radicalement différentes.
Oui, c'est vrai, parce qu'en Inantico. Plus, on a eu la chance de s'entretenir déjà dans une discussion au Festival Gribouille, et ça m'avait marqué, effectivement, qu'on ait commencé par des sens différents. Donc moi, c'est vrai que pour la première fois, parce que d'habitude, c'est pas le cas, mais là, c'est un texte qui est venu à un moment donné de ma vie où je me suis interrogée sur, après une séparation importante pour moi avec le père de mon fils, un an après, du fait d'être toujours aussi perdu dans mes doutes et dans la culpabilité, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais perdu mon désir et comment j'avais désiré jusque-là. Et c'est vraiment un texte que j'ai écrit assise devant un bureau en essayant vraiment de travailler le texte. Et je pense que je me parlais à moi-même, et en même temps, vu que c'est mon métier d'autrice, je peux pas nier qu'il y a quand même au-dessus de moi quelqu'un qui me dit que il y a une finalité qui va être autre que j'aurais envie de le partager. Mais néanmoins, j'essayais d'abord moi de chercher, d'essayer par fragments de me dire voilà les étapes qui se sont passées sur moi et mon corps. Et voilà, ça c'était un texte qui a fait une soixantaine de pages que j'ai fait lire que à des proches au moment où je l'ai terminé. Et le retour que j'avais, c'est que le début était bien, le milieu était bien, mais au moment plus je me rapprochais du présent et de la boue dans laquelle j'étais encore, et voilà, c'est un texte qui méritait d'être encore pesé, d'être posé. Et c'est ce que j'ai fait ma donnée putain entre temps. Et c'est une fois que je suis allée à Venise pour la première fois, parce que Venise avait été aussi au centre d'une interrogation, de me dire est-ce que je vais à Venise toute seule alors que je devais y aller à deux. Et j'avais frôlé la schizophrénie en me disant ça va me faire du bien, non ça va pas me faire du bien. Et j'annulais, je reprenais mes réservations. Et cette perdition dans mon envie, alors c'était Venise, mais au-delà de ça, c'était de quoi j'avais envie moi et je ne le savais plus. Venise, une fois que j'y suis allée, 2 ans plus tard, a été une grande impulsion, une inspiration de me dire c'est ce qui me manquait pour y mettre l'image, en fait, dans ce texte.
Oui, parce que vous dites que vous remontez, je vous cite, le fil de votre désir. C'est un fil comme ça, rouge, une sorte d'anamnèse comme ça, et qu'au départ, vous fonctionnez avec des lectures sur Venise, que vous citez, d'ailleurs, il y a énormément de citations. Donc, parce que Venise est presque créée pour faire écrire. Tout le monde a écrit sur Venise, à la fois comme expérience et comme songerie. Et donc, il y a d'abord les lectures, après, il y a le séjour sur place. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont Venise, eh bien, accélère ou entretient la remontée de ce fil. En quoi cette ville a des capacités, un pouvoir presque magique de vous faire remonter à l'intérieur de l'histoire de votre désir, puisqu'on prend les choses quasiment au tout début.
Ouais, bah il y a cette lagune qui est effectivement comme du plasma, enfin quelque chose de maternel et de sombre en même temps, donc qui invoque les souvenirs. Après, il y a le fait que ça soit vraiment la ville du désir, la ville de l'attraction. C'est la ville touristique de tout temps qui toutes les cours d'Europe se pressaient à Venise pour le carnaval qui s'est allé sur des mois. Et en même temps, c'est la ville qui souffre maintenant, qui pâtit, qui coule sous sa force d'attraction. Donc déjà, ça en soi, c'était une métaphore pour moi qui représentait un peu ce que j'éprouvais par rapport au désir après lequel je courais moi-même depuis l'enfance. Et donc, voilà, juste cette notion-là était suffisante. Et le fait de lire, comme je le fais d'habitude quand je voyage, j'essaie d'acheter que ce soit des petits guides insolites. J'aime bien cette collection, les dictionnaires insolites sur Venise, Londres, n'importe. Et là, celui de Lucien Dazé, je l'ai trouvé très très bien écrit. Et la notule qui m'a vraiment inspirée tout de suite, c'est celle sur les gondoliers qui racontait que les gondoliers s'appropriaient Casanova à leur façon, puisqu'ils ne l'avaient pas lu la plupart du temps, les mémoires de sa vie. Et que surtout aux Français, qui étaient très riant de ce genre d'historiette coquine, il racontait un peu n'importe quoi. Donc déjà ce truc de raconter, de fabuler sur Casanova à leur sauce, je trouvais ça intéressant. Et ça se terminait, et là ça a été le déclic par ce qu'il manque à Venise au fond, c'est un Casanova au féminin qui ne serait pas une courtisane. Et là ça a fait tilt dans ma tête de me dire, voilà, est-ce que je vais aller jusqu'à moi dire que je suis cette Casanova? Donc après avoir passé le côté présomptueux de cette comparaison, je suis rentrée au fur et à mesure dans ce parallèle.
Thank you.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Inorota de Venise, de Casanova, de Fellini. Élise Lépine.
Oui, juste pour poursuivre sur Venise, avant de partir aussi sur la jeunesse de... Et c'est ainsi que je suis née, ce qui m'intéressait, c'est aussi l'utilisation du masque, puisque Venise, c'est la ville du loup, c'est la ville de... Du carnaval et du déguisement, et aussi c'est la ville dans laquelle votre héroïne projette en tout cas cette question du désir, du Casanova au féminin, et vous travaillez beaucoup ça dans la bande dessinée, c'est-à-dire que très souvent les visages sont masqués, ont un loup, et ça vient questionner cette question de ce qu'on plaque aussi sur le visage des femmes. J'ai trouvé ça très intéressant.
Bah moi, c'est vraiment le motif qui m'a permis de rentrer dans ce récit intime, justement de mettre des masques à non seulement mon personnage, que de base, moi, je me voyais pas du tout me dessiner et en plus dessiner les garçons ou les hommes dont j'allais parler au travers de mon corps. C'est toujours ce prisme-là qui m'intéressait. Mais à partir du moment où j'ai pu masquer tout le monde, je me suis permis ce récit. Donc c'est le masque qui m'a permis de révéler. Et puis en plus, voilà, j'utilise certains masques, dont un qui s'appelle l'Amoretta, que les femmes devaient pincer et qui les rendait silencieuses à un moment clé du livre. Ça, je savais que c'était un masque qui allait être très important à un moment. Mais oui, c'est clairement, si j'avais pas eu ce déguisement, je ne serais pas allée dans mon récit.
Antoine Guillaume.
Ah ben des masques, il y en a aussi chez Fanny Michaelis, puisque la question du visage est passionnante chez vous. D'abord parce que ce visage est perpétuellement mouvant, le visage de votre héroïne. On a l'impression qu'elle en change à chaque fois que quelqu'un de différent la regarde. Par exemple, il y a ce masque qui est une tête géante presque de carnaval, en plus de carnaval des Flandres, une sorte de comme on peut les voir. Ça aussi, vous travaillez cette question du visage.
Oui, puisque précisément le personnage naît dans une disposition où son visage, qui apparaît malgré tout en négatif, mais effectivement est retroussé. Donc, ce qui, pour revenir sur effectivement cette idée que c'est l'image qui a guidé, effectivement, contrairement au texte de Nine, l'impulsion de mon désir d'histoire, c'était vraiment cette séquence, en fait, qui est du coup quelque chose qui est vraiment qu'implique seulement la bande dessinée, en fait, c'est-à-dire une écriture qui se fait par séquence, ou peut-être ce qui serait le plus proche, c'est l'animation, mais l'animation, c'est trop coûteux, et moi j'aime bien être indépendante, et puis bref, de toute façon je n'ai pas du tout les compétences, mais du coup il y avait cette idée comme ça de poser un départ, quoi, un point de départ avec un père, une mère, enfin une espèce de schéma archétypal,
de conte,
effectivement on n'est pas loin du bûcheron et de la bûcheronne Hansel et Gretel, ou ce genre de choses qui, effectivement, certainement ont bien façonné mon imaginaire. Et puis cette gueule géante dans laquelle on zoome et qui produit littéralement, en fait, la figure de ce personnage de jeune femme à l'envers, mais qui finalement est assez docile dans cette disposition-là. Mais malgré tout, ce qui effectivement guidait, encore une fois, ce désir d'histoire, c'était comment cette tête allait se soulever, donc ou comment elle allait sortir, enfin comment quelque chose allait se passer qui allait élever son regard sur le monde, ou peut-être permettre à ce personnage le moins disposé du monde à justement regarder autour, aller donner sa version, quoi, des choses.
Mais vous parlez de ce qu'il y a de plus concret, de plus réel, de plus incarné, Fanny Michaelis, mais vous avez nécessité de passer par la grammaire et ce que vous dites, le schéma du conte, de l'inconscient, du rêve, pour arriver à le toucher. Est-ce que vous vous imaginez faire comme Nine Anticot un récit, quand même, somme toute, réaliste, avec des personnages qui sont du quotidien? Là, on est dans une sorte de grammaire psychique qui est celle de l'inconscient. C'est l'inconscient est une nécessité pour vous pour toucher le réel?
En tout cas, il est évident que je pense, encore une fois, pour reparler du désir, que ça n'éveille aucun désir chez moi de raconter quelque chose, d'être dans le document, c'est-à-dire de documenter quelque chose. Pour autant, ma propre vie et celle de ceux qui m'entourent, ou ce que je perçois, ce qui m'arrive du monde extérieur, heureusement, me permet de... Enfin, ce que je trouve vraiment très précieux dans la fiction, disons, en tout cas, sans parler forcément du conte, mais effectivement, peut-être que cette grammaire-là me permet, en fait, de piocher dans le réel sans qu'il me domine, enfin, ou sans qu'il domine le récit, y compris dans ce que ça induit pas de dynamique, quoi. C'est-à-dire, peut-être ça donne la dynamique, voilà, ça donne le mouvement. C'est-à-dire, on n'est pas forcément dans un monde qu'on peut nommer, on n'est pas dans une temporalité comme dans Le Lait Noir, qui effectivement s'inspirait librement de l'histoire de mon grand-père, mais en même temps, il n'est pas question de nazis, il n'est pas question de juifs, il n'est pas question vraiment précisément d'une temporalité qui aurait certainement, enfin en tout cas de mon point de vue, enfermé l'imaginaire. Là où, pour moi, c'est important que, sans que ce soit précisément orienté, la lectrice ou le lecteur puisse faire des connexions avec éventuellement la violence de l'exil ou de la persécution ou de la domination ou du monde du travail, mais sans que ce soit discursif, quoi, voilà.
Antoine. Alors le voilà, le mot lâché, la domination, c'est encore un point commun qu'on peut tirer entre vos deux livres. Dans le livre de Fanny Michaelis, c'est un peu la convergence des luttes. Dans cet aéroport vont s'agglomérer des luttes féministes, sociales, des migrants, mais donc de l'appareil d'État en général. Et chez Ninantico, alors c'est un peu plus tortueux, je dirais, mais s'interroge justement cette question de la domination masculine, de la domination du désir de l'autre, et de comment, malgré tout, on peut le fantasmer et en tirer du plaisir. Il y a cette découverte, un moment qui va enrichir votre vie érotique d'une assez médiocre bande dessinée pornographique des années 90, mais où vous dites, et là c'est très passionnant,
que vous y trouvez,
et ça c'est ultra, ultra mauvais genre, mais même nous, dans mauvais genre, on l'a pas encore exploré.
On y vient.
Ou paradoxalement, vous dites que vous pouvez y trouver une clé pour vous libérer de l'autocensure, c'est-à-dire d'assumer des fantasmes inavoués sur le thème, je vous cite dans le livre, du plaisir arraché en dépit de ma volonté.
Ninantico.
Je crois vraiment que c'est la libération de vivre des fantasmes par procuration et de moi plus être au centre du désir et de ce fait de me libérer d'une pression, en fait, de qu'est-ce que je veux, où est mon désir. Et le fait d'avoir cette BD entre les mains, c'était, voilà, ça canalisait, il y avait un autre vecteur, vraiment, ça faisait diversion sur moi, et moi, ça m'a ouvert la porte, effectivement, d'une jouissance derrière laquelle je courais depuis mon entrée en sexualité, quoi.
D'autant que, et ça encore, on pourra en créer des liens, c'est que vous racontez quand même que les questions de désir et des sexualités ne peuvent pas s'abstraire d'une époque, d'un substrat culturel, de tout un environnement. Il y a une page notamment où vous citez tous les images de films de l'époque où vous avez dû aussi découvrir la sexualité. Alors ça va de Pretty Woman à Roméo et Juliette.
Basic Instinct est celle que j'ai le plus écumée à la VHS.
Prolonger.
À un moment, le personnage que vous incarnez, si j'ose dire, ressemble, mais alors très pour très, à Jodie Foster dans Taxi Driver.
Oui, j'ai complètement calqué.
Alors, comme image de la domination, de l'exploitation du corps féminin et de l'injustice sociale, là, on est quand même pas mal.
Oui, mais c'est un passage clé où dans ma bande dessinée, il y a... Il y a un vrai danger qui est là avec donc mon personnage qui dans la rue se fait alpaguer par un homme voilà qui veut juste lui parler et qui lui fait peser cette situation qu'on a toutes vécue, je pense, mais pourquoi tu veux pas parler, moi je veux juste parler. Et puis au fur et à mesure on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire, c'est-à-dire de s'asseoir à côté de quelqu'un ou de monter l'accompagner dans un immeuble, enfin bref, je pense que à ce moment-là j'ai frôlé quelque chose de vraiment dangereux. Et finalement, ce passage dans la bande dessinée, je l'incarne avec effectivement le personnage. Je ne me rappelle plus le nom du personnage de Jodie Foster dans La prostituée, en tout cas.
Armée Cattel, qui joue le rôle du proxénète, s'appelle Mathieu, dans mon souvenir.
Iris, il me semble.
Mais...
Et en tout cas, elle est, voilà, c'est le personnage par excellence sexualisé. C'est la jeune fille qui est prostituée dans Taxi Driver. Et moi, j'avais envie de représenter ce moment-là de l'adolescence où on joue avec les codes, où effectivement on peut s'habiller et rêver d'être plus grande et donc de se montrer un peu sexy, etc. Mais on est entre deux eaux, on ne sait pas exactement où on est et on charrie des regards qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas de vocation très très à visée particulière, quoi.
Élise.
Et il y a la poupée Barbie aussi qui est très présente dans l'album et qui revient pour incarner aussi cette figure à la fois très féminine et en même temps entre les mains de petites filles qui elles-mêmes se retrouvent transformées en objets comme vous l'écrivez à un moment donné.
Oui, après c'est vrai que le motif de la Barbie, je l'ai depuis ma première BD parce que le goût du paradis qui était aussi autobiographique, comme les Barbies ont compté dans mon éducation, je la faisais forcément apparaître dans ma première bande dessinée, dans Hotel California aussi. Je pense que c'est un motif. Moi, en fait, je crois que c'était. Je la castre pas comme juste un objet qui m'aurait censuré, parce que finalement je faisais ce que je voulais avec ma Barbie. Je me rendais bien compte que c'était pas une vraie personne, mais une fois la porte fermée de ma chambre, je faisais vraiment ce que je voulais
un
avec
Ken
mes Barbies
Barbie.
Et mon Ken. Donc donc voilà, ça a été aussi ma première Angie, en fait, c'était ma Barbie.
Alors, je voulais revenir sur la figure de la domination chez vous, Fanny Michaelis, parce que cette jeune femme qui sort d'un conte de fées et qui a une certaine ingénuité par rapport à ce que les hommes peuvent lui vouloir, mais aussi le pouvoir en général, vous le transformez là aussi en une force. C'est-à-dire que de la domination des femmes peut surgir une révolte. Une révolte qui devient une révolte généralisée et révolutionnaire.
Oui, après il est peut-être moins question de la domination des femmes que d'une forme de, comment dire, de dépliage, enfin de déplier la question des inégalités d'existence et des inégalités quelque part d'accès à, enfin en tout cas la question de l'émancipation, qu'elle soit introspective, puisque effectivement le démarrage du livre est vraiment une question assez schématique, quoi, on va dire, d'une idée assez psychanalytique, papa, maman, la grosse soupe, et puis comment on s'en sort, quoi. Et effectivement, c'est réglé assez vite dans le récit. Et ça entraîne effectivement le personnage, cette disposition malencontreuse qui aussi se résout assez rapidement, se résout pas que pour elle-même, mais l'entraîne dans un mouvement qui, en fait, du regard, lui permet de jeter son regard sur d'autres êtres qui n'ont pas plus de nom qu'elle n'en a, alors que c'est effectivement le personnage principal, mais parce que son histoire, finalement, ne compte pas tant que ça, en fait. C'est son regard sur le collectif et sur, du coup, un autre type de corps, c'est-à-dire pas que le corps des femmes, pas que le corps, en tout cas, genré, puisqu'il est moins question du désir qui se pose sur elle, même si c'est effectivement effleuré, mais de manière beaucoup moins approfondie que dans le livre de Nine, bien sûr. Enfin, disons que ça en est moins le sujet que la question de comment la colère gronde, quoi. C'est-à-dire comment, peut-être d'une colère ou d'un soulèvement intime et certainement bénéfique, la question ne se résout pas pour le personnage seul, mais se voit agrégée à d'autres comment dire, inégalités ou d'autres nécessités de se soulever, même s'il n'y a pas de résolution à la question, mais en tout cas il s'agit de créer un langage commun, quoi, à tout ça.
Élise ?
Moi, j'ai trouvé intéressant de me retrouver dans un aéroport dans ce texte-là, puisqu'on est d'abord dans ce conte avec cette fille à la tête à l'envers, et puis d'un coup, on est dans un endroit très concret qui est beaucoup moins onirique qu'au début. Et c'est là aussi que tout se croise, c'est un carrefour en fait, et j'ai trouvé ça très bien. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce lieu pour justement représenter l'endroit où on a d'un côté un duty-free, où passent les gens un peu fortunés qui vont dépenser des fortunes dans des choses inutiles, et puis des employés qui vivent des vies compliquées, et puis des gens qui sont renvoyés dans leur pays dans des scènes assez dramatiques. Qu'est-ce qui vous a amené là et inspiré autour de ce lieu?
Parce que je pense que l'aéroport, en fait, au même titre que effectivement le bûcheron et la bûcheronne du conte, c'est finalement c'est devenu un archétype aussi, en fait. C'est-à-dire que on peut tout à fait l'intégrer dans un récit de type effectivement poétique, pas dans le sens d'amenuiser ou de poétiser, dans le sens adoucir, mais dans le sens que effectivement. Sans pour autant dire ça se passe à Roissy ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est un archétype, tout le monde sait de quoi on parle, et en même temps nos imaginaires communs sur ce lieu-là, ils sont à la fois tout orientés vers une idée de progrès, évidemment, de modernité, de liberté, etc. Et en même temps, on peut aussi voir les choses à l'envers, c'est-à-dire que comme n'importe quel lieu, c'est un lieu de paradoxe. Alors, je dirais que c'est surtout un lieu à interroger, puisque effectivement, cette liberté a un coût. Mais là encore une fois, je pense que l'imaginaire de la lectrice ou du lecteur peut être est libre de d'y associer ce qu'il veut, mais ce paradoxe est présent, c'est-à-dire à la fois un lieu qui est désirable et indésirable, désirable parce que c'est ce lieu de liberté et que le livre parle beaucoup de cette question, et en même temps c'est un lieu de pourriture, comment dire, climatique, d'inégalité totale, personne ne consomme. Enfin, je sais pas, le pourcentage de qui consomme l'avion est vraiment minime, enfin, etc., etc.
Antoine Guillou.
Alors, ce qui est passionnant, là encore, avec ces deux livres, c'est que ce sont aussi des livres de grand renouveau graphique, voire de libération pour nos deux autrices. Chez Fanny Michaelis, on avait l'habitude de livres qui étaient comme des miniatures dessinées comme ça, très finement, très précisément. Et dans C'est ainsi que je suis né, on oscille entre le constructivisme par moment, avec ses corps très très géométrisés, et puis tout d'un coup, ça se lâche, comme on n'a jamais vu chez vous. Le dessin, le crayon devient fou. On est presque dans l'expressionnisme, comme s'il y a quelque chose d'extrêmement jeté, relâché, dont on n'avait pas l'habitude dans votre travail, et c'est tout à fait passionnant. Et chez Nine Antico, alors peut-être parce qu'il y a eu un changement d'outil, on vous a connu au Rotring au départ, et puis voici qu'arrive la plume et le pinceau, qui était déjà beaucoup présent dans Madones et Putains. Il y a un sentiment, là encore, de libération graphique, d'exploration d'autres choses. Il y a ce travail assez génial, il faut le voir à la Galerie Martel en ce moment, de voir comme ces post-it qui sont collés sur certaines planches, qui réinterrogent complètement le langage de bande dessinée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une case? Une case, ça peut être quelque chose qui surgit d'un lieu caché, puisque Venise n'est que surface, il faut aller chercher ce qu'il y a dedans, mais qui surgit aussi de l'inconscient par moment, enfin comme des images mentales qui s'impriment, ou alors qu'il faudrait encadrer pour pas trop qu'elles envahissent tout. Toutes les deux, comment est-ce que ces livres ont été aussi un support d'exploration, d'expérimentation pour votre dessin?
Nurdico.
C'est vrai que ça avait commencé avec Madone et Putain, cette façon de traiter la narration off De façon séparée des cases qui ne remplissent plus la page. J'ai plus un gaufrier comme je faisais avant. Et là, du fait que le texte était là préalable même à tout dessin, la matière du texte guidait les cases, et j'ai voulu me faire encore plus plaisir en m'autorisant à ne pas remplir la page et à distiller les phrases qui sont aussi finalement, plus on en met, moins elles ont d'importance. Enfin, il fallait vraiment rythmer les pages, les scander le texte et le en dessin. J'avais pas envie de séquence non plus. Je préférais aller vers des moments. Voilà, c'est, mes dessins, c'est des moments, et il y a des ellipses qui se jouent ou dans le texte ou dans l'image. Et j'avais vraiment envie de jouer de cette dualité du texte et de l'image qu'apporte la bande dessinée. C'est vrai qu'on n'a pas ailleurs, qu'on peut pas avoir dans l'audiovisuel. Et c'était précieux pour moi de distiller le temps. L'espace entre le texte et l'image.
Fanny,
Je pense que moi, mon dessin a évolué aussi ces dernières années du fait d'avoir justement pris du recul avec la bande dessinée et d'avoir aussi m'être engagé beaucoup plus dans l'illustration, et donc de penser justement les images plus longuement, de manière plus structurée, de penser la composition, et que finalement ce temps de latence a fait que j'ai pas abordé ce récit de la même manière. C'est aussi un livre qui m'a pris quelques années, donc le dessin a aussi bougé, et en tout cas pour moi, de la même manière que le personnage effectivement change de visage et que je sentais qu'il fallait que ça puisse exister dedans, que c'était pas tant une prise de risque que ça aussi, que ce visage bouge, parce que c'était un visage presque abstrait, enfin en tout cas qui pouvait être un support de projection, qui n'avait pas forcément à être psychologisé, justement paradoxalement avec cette idée d'inconscient.
Quand même un peu, enfin, je vous interromps, mais oui. le crayon, le crayonnage, le crayonné a une espèce de violence du témoignage psychique, j'ai envie de dire, et oui. Moi quand je vois vos pages, je pense plus à l'écriture automatique, au Ouija, vous savez, les spirites qui se mettent à
convulser.
Main s'affole, mais là on a l'impression d'une espèce de spiritisme ordonné. Vous voyez, on voit d'où ça vient, mais ça n'est pas lâché, ça n'est pas laissé comme ça. La meute n'est pas lâchée, on s'est tenu, la bride est courte. Mais on pense quand même à une sorte de violence intérieure qui se trahit par ces. Parce que le crayon a quelque chose de. C'est un outil, je dirais, populaire, connu, enfin, je veux dire, tout le monde s'est servi d'un crayon dans sa vie. Et donc là, il y a quelque chose d'une sorte de témoignage violent, presque. Et ça reste, on a toujours cette dimension comme ça de la dictée, au sens surréaliste du mot.
Mais oui, en même temps, le crayon, c'est déjà ce que j'utilisais dans mes précédents livres, et de manière effectivement beaucoup plus miniature, beaucoup plus contrôlée. Je pense que c'était un dessin vers lequel il fallait aller, alors que là, peut-être, il y avait un autre enjeu, c'est-à-dire c'est un dessin qui vient plus vers le regard, en fait, parce qu'effectivement, ça pouvait. Enfin, j'ai découvert, je veux dire, quand je dis découvert, c'est mon expérience très humble, que je pouvais utiliser cet outil, effectivement très populaire, très peu coûteux, à la fois comme un pinceau, c'est-à-dire vraiment en le faisant. Alors d'autres, bien sûr, l'ont fait largement avant moi, et ça m'a inspirée aussi. Mais moi, j'ai découvert aussi ce plaisir-là, quoi. C'est-à-dire que ça puisse être à la fois de l'ordre de la matière, que des choses pouvaient en surgir, et qu'en même temps, je pouvais réordonner à l'intérieur, donner des lignes, donner de l'attention dans quelque chose de peut-être plus pictural, là où effectivement, dans mon précédent récit, c'était beaucoup plus peut-être contrôlé, quoi.
Alors, une dernière question croisée, puisque vous êtes toutes les deux des artistes multiples. J'ai eu très fort le sentiment, en lisant, et c'est ainsi que je suis né, d'une sorte de composition musicale, c'est-à-dire que ça pourrait être un moment de free jazz par moment, avec des harmonies plus posées, puis comme je disais, des moments où ça part dans la stridence du trait. Ennie Nanticot, puisque vous êtes aussi cinéaste, vous avez réalisé parallèlement un film qui était c'était comme une rêverie là encore sur Venise. Bah, c'est l'un et l'autre se contiennent l'un dans l'autre. Hein. C'est très très étonnant. Ça s'appelle le fond vert. On pense bien qu'il y a quelque chose d'un rayon vert derrière. Alors comment est-ce que vos pratiques artistiques diverses sont infusées à chaque fois vos livres?
Bah, moi, il y a eu le film a influencé la bande dessinée, non seulement parce que quand je suis allée à Venise, j'ai tout de suite eu l'envie de ce film où il y aurait mon nom qui résonnerait dans l'aéroport avec cette question de j'y vais pas. Donc il y a eu cette envie sonore d'un film qui raconterait la projection mentale dans Venise et le questionnement et les citations donc, qui sont dans le film et qu'on retrouve dans la bande dessinée. Donc ensuite il s'est agi pour moi de séparer ce qui appartenait à l'un et à l'autre et donc le film allait beaucoup plus être l'interrogation sur le voyage, la solitude, l'indépendance, mais à travers le voyage, tandis que le livre allait questionner la question du désir, les souvenirs, là où c'est pas la question du film. Il y a vraiment des choses que je pouvais pas montrer, que j'avais pas du tout envie de montrer, et le dessin et la bande dessinée était la seule manière je l'aurais jamais conçu en filmé.
La pornographie s'y est mieux à la bande dessinée.
Tout à fait, ouais, je trouve que c'est un parfait champ, la bande dessinée pour...
Fanny Michaelis, alors, dimension musicale de ce livre?
Peut-être musicale dans le sens d'un rythme qui peut être à la fois dans la rupture, dans une question aussi de temporalité de lecture, c'est-à-dire comme c'est aussi un livre qui est de peu de mots, encore une fois, peut-être c'est pourtant mon livre le plus verbeux, mais franchement...
Ils ont éloquent, voilà, verbeux.
Non, verbeux, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a quand même des mots, il y a quand même un fil conducteur à travers le langage parlé, une forme plus littéraire. Mais il y a aussi vraiment cette lecture de l'image, puisque pour moi elle est importante, puisque c'est comme ça globalement que se construit la narration. Et cette dramaturgie, elle implique qu'on puisse par moments stagner sur une image, et puis accélérer parce qu'il y a de la forme dialoguée, parce qu'il y a du réel, on en parlait tout à l'heure, mais qu'il y a tout d'un coup des choses hyper terre-à-terre, très pragmatiques, on est vraiment dans le champ social, le monde du travail et l'anecdote et ces éléments de langage qui ne sont pas du tout inventés, qui sont vraiment des choses, pour le coup, de l'ordre du document, et que tout ça peut former en fait une sorte de effectivement d'expérience de lecture, en tout cas que moi j'avais pas envie de sanctionner, c'est-à-dire de vraiment, j'ai envie de faire un dessin, je fais ce dessin en pleine page, et puis ensuite je vais dans une forme plus narrative, plus évidente, et voilà, de pouvoir alterner entre les deux, c'était peut-être là, en tout cas, la juste manière de composer pour ce récit-là.
Lise Lépine boit.
Pardon, oui,
c'est toujours le
délire. J'essayais de ne pas tousser dans mon
dos.
Là, c'est vraiment... Non, et le noir et blanc, c'est vrai, une question de Béotienne en bande dessinée, mais qu'est-ce que ça change quand on veut exprimer les choses dont vous nous parlez ici?
Surtout vos illustrations, Fanny Michaelis, sont extrêmement colorées.
Mmh. Oui.
Oui, mais après des expériences assez rapides finalement, mais sur des expériences, des tentatives plutôt de récits en couleur. En fait, alors d'une part, c'était raté, et en plus, ce qui me rend très heureuse dans la dimension, parce que j'aime beaucoup la couleur effectivement, mais dans l'illustration, sur un récit long comme ça, je pense n'aurait absolument rien apporté. Et le crayon en lui-même raconte en fait tout ça. Je pense que c'est juste pas la même vibration, mais peut-être que le jour viendra où je trouverai la formule juste pour ou la nécessité en tout cas. Mais...
Je pense que j'ai peu de choses de plus à dire, c'est que je trouve que le noir et blanc suffit et que la couleur peut être. Ça ne sert à rien de mettre de la couleur si c'est juste pour ajouter quelque chose, parce que le noir et blanc est suffisamment graphique et fort en soi. Quoi.
Deux albums que Mauvais Genre recommande évidemment très chaudement. Et c'est ainsi que je suis né de Fanny Michaelis aux éditions Casterman et Nine Antico, une obsession aux éditions Charivari d'Argot. Et puis, Antoine Guillou me tend une invitation, mais c'est fini, pourquoi je peux
mais
plus
non,
y aller
cette année. C'est en ce moment, à la Galerie Martel, si vous voulez voir les originaux magnifiques de Ninantico.
C'est pas à ce point-là. Ninantico, dans lequel la Galerie Martel à Paris, 17 rue Martel, dans le 10e arrondissement, et puis Formula Bulla.
Et puis Formula Bulla qui rend hommage à la grande Aline Kaminski-Crumb, et qui agrège autour d'elle beaucoup d'autrices, d'auteurs et d'autrices, surtout, qui ont des rapport avec elle, dont Ninantico et Fanny Michaelis, que vous pouvez croiser jusqu'à demain soir à Formula Bulla.
Merci mesdames, merci Antoine, merci Élise. You kiss me like a stranger. You kiss me in the sand. You'll meet me in a bathtub upon a mountain. Upon a mountain. The door, it opens slowly. You see me from behind. The fiction in my blood now. A scenery of mine. You can't conceal emotion. It's written Chronique maintenant d'un mauvais genre. On commence avec Antoine Guillot. Antoine Guillot.
Ah bien, eh bien, alors après oui. les jeunes pousses des années 2010, les grands anciens des années 90, deux des cofondateurs de l'association, à commencer par David B. David B sort enfin un nouveau livre à l'association, c'est son 16e, je crois, là-bas. Ça s'appelle Monsieur Chouette. Et c'est plus que chouette, c'est vachement bien. C'est le point commun des deux livres dont je vais parler, c'est des femmes plongées en enfer. Alors, très systématique. Là, vraiment très littéralement, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme qui est terrifiée par son ombre qui est un tigre qui manque de la dévorer à chaque fois et qui va rencontrer un drôle d'animal, ce monsieur Chouette, qui est un animal qui est à la fois psychopompe, vous savez, ceux qui accompagnent les âmes de l'autre côté, et très bambochard. Il aime beaucoup faire la fête, et donc il l'emmène en enfer. Et alors là, c'est David B. dans tous ses exploits graphiques. Ça, c'est entre le conte fantastique, l'aventure picaresque, le polar horrifique, parce qu'il y a un terrifiant cerbère détriplé qui va traquer l'héroïne pendant toutes les 262 pages du livre.
Et le cerbère est très inquiétant.
L'art de David B. atteint une sorte d'apothéose totale dans l'exercice de l'accumulation graphique, parce qu'en enfer, il y a non seulement tous ceux qui sont morts qui s'accumulent, mais il y a aussi tout ce qui est mort. Donc c'est un bâtiment détruit se retrouve en enfer, un objet que vous jetez se retrouve en enfer, donc tout est saturé en permanence d'objets, et c'est pourtant extrêmement lisible. Il y a un sens du détail chez lui toujours dingue. Et puis, il y a une nouveauté chez lui. Il y a un travail du modelé et des matières qui va donner chair à sa ligne claire, à ses inventions fantasmagoriques. Donc, c'est un livre passionnant à lire et génial. Ça s'appelle Monsieur Chouette, c'est à l'association. Et alors, autre cofondateur de l'association, c'est Lewis Trondheim, toujours très actif, toujours trois livres par mois à peu près. Et dans les
toujours
trois,
jeune,
livres,
toujours
dans les trois livres du moment, dont un nouveau Lapino qui est retourné chez Dargaud, il y a un livre dont il signe le scénario, signé par Biancarelli, avec qui il faisait déjà une série. Mais alors là, c'est une histoire unique qui s'appelle Greenwich Village, alors qui est un livre très zoubapien, parce que en fait, il y a une contrainte, qui est la contrainte des Sunday Pages, des moments où, vous savez, il y a les strips dans la bande dessinée classique, et puis le dimanche, on fait une Sunday Page, c'est-à-dire une page grand format, mais qui doit être remodulable selon l'endroit où ça va être publié. Donc ça, c'est la contrainte graphique pour raconter quoi? L'histoire d'une femme de 30 ans de 2025 qui se retrouve et qui se réveille un jour dans le corps d'une jeune New-Yorkaise de 1959. Et là, effectivement, c'est l'enfer quand on est une femme d'aujourd'hui, parce que on est l'objet de l'assiduité de tout le monde, et notamment d'agents priapiques qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous coincer dans un recoin, de fonctionnaires de la CIA obsédés par la chasse des rouges. Et en fait, c'est à la fois très drôle sur le décalage des époques. l'époque, mais ça arrive avec toutes ces contraintes-là à faire un récit complètement haletant autour d'une bombe atomique tombée d'un avion dans le port de New York, que se disputent des anciens nazis et des agents du KGB. Donc c'est très flamboyant, avec un dessin qui est vraiment un hommage aux comics des années 50, notamment à Alex Raymond, le créateur de Rip Kirby, et c'est très beau et très passionnant à lire, et voilà. Deux livres formidables, et les anciens en ont encore sous le coude.
Ah oui, absolument. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Monsieur Chouette, parce qu'il y a quand même des trouvailles. Il y a le cimetière de maisons, où les maisons s'empilent comme une sorte d'ossuaire de maisons. Il y a les gens, c'est très ballardien, qui revivent un accident de la route à vie, enfin pour l'éternité. Et puis, alors, le sol est jonché de mues de fantômes, parce que les fantômes perdent leur peau, et donc c'est plein de trouvailles.
Je vous donne un conseil, si jamais vous voulez aller aux enfers sans vous faire repérer par Cerbère, revêtez-vous d'une robe en peau de fantôme.
C'est dit. Élise.
Alors, vous savez que je recommande uniquement des livres que j'aime beaucoup, mais là, on est encore un cran au-dessus. C'est un livre qui m'a pourtant pourri toute une journée récemment parce que j'avais lu la veille jusqu'à 4h du matin. J'étais incapable de le poser. Ça m'a coûté très cher le lendemain, mais c'est absolument sans regret. C'est un thriller qui s'appelle sobrement Baignade, qui est signé André Michaud, autrice québécoise, qui a publié plusieurs livres que j'adore chez Rivage Noir, Rivière Tremblante, Tempête, Proie, etc. Elle a le chic de créer des ambiances qui mêlent aux éléments naturels des explosions de pure violence, de grande cruauté, de grande terreur. Ici, c'est une petite famille qui part camper au fin fond du Québec. Papa, maman, la petite fille de 5 ans. Mais dès le premier jour, ça tourne mal. La petite fille va nager innocemment toute nue dans le lac. Et le propriétaire du camping s'offusque de la voir se baigner dans le plus simple appareil. Ce qui jette un froid quand même. Et puis les parents deviennent amis avec un autre couple de campeurs. Mais le mari de ce couple va avoir des gestes et des paroles déplacées envers la petite fille. C'en est trop évidemment pour le père qui voit rouge et qui décide de quitter en pleine nuit ce camping de dégénérés. Il prend son véhicule, il s'en va avec femme et enfant. Mais il se trompe de chemin, première mauvaise décision d'une longue série. Il s'enfonce dans des bois très épais, un orage éclate, il tombe en panne en pleine forêt, il y a des silhouettes, ils entendent des hurlements dans la nuit. Le père s'enfonce dans les bois, il revient terrorisé en disant qu'il y a une femme morte et deux enragés. Et la petite famille saute sur des vélos et part sous la pluie pour fuir les monstres qui hantent la forêt. Et on va suivre, donc sidéré et estomaqué par la lecture, cette nuit d'horreur qui va durer un peu plus qu'une nuit, de la très infortunée petite famille de vacanciers. Ça suffirait à faire un excellent roman d'épouvante. Mais André Michaud construit son livre en deux parties, et dans la deuxième, nous sommes 4 ans après la catastrophe, dans l'intimité d'une famille reconstruite. Alors, je vous dirai pas quel lien elle entretient avec les personnages de la première partie, parce que le suspense, évidemment, est insoutenable, et je veux pas le gâcher, mais là, il y a des grands-parents, il y a des frères, il y a des sœurs, des conjoints, et chacun a été marqué par ce drame, 4 ans plus tôt. Et André Michaud nous confronte à une autre violence, c'est celle du jugement de l'inquisition des familles, qui, sous couvert d'amour et de vigilance, vont littéralement pourrir la vie de ceux et de celles qui essayent de se reconstruire après la violence en voulant décider à leur place de ce qui est bon ou pas pour eux. Et là, bien sûr, encore une fois, la catastrophe menace de frapper toujours dans un cadre naturel magnifique et oppressant. Et c'est un kaléidoscope de la violence sous toutes ses nuances, qu'elle soit sauvage ou qu'elle soit bien sous tout rapport, que déploie la romancière André Michaud. Baignade chez Rivage Noir, c'est tout simplement magistral. Je pense que c'est dans le top 10 des meilleurs thrillers que j'ai lus dans ma vie. Et j'en ai lu beaucoup.
Ça, certes, vous avez lu beaucoup. Je signale également David B., une exposition du 6 septembre au 25 octobre, qui se tiendra donc à la bibliothèque Mériadec, 85 cours du Maréchal Juin à Bordeaux.
Merci. Dans le cadre du festival Gribouilly.
Dans le cadre de Gribouilly. Merci Fanny Michaelis, merci Nina Antico d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre pour Et c'est ainsi que je suis né chez Casterman et une obsession chez Charivari d'Argot. André Michaud, c'est chez Rivage. Monsieur Chouette à l'association. Et Greenwich Village, c'est chez Lombard. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleray, Dalil Yahia, Claire Poinsignon, Élise Lépine, Claire-Martin Duguerre, Antoine Guillot et François Angelier. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Nina Allan et d'Hubert Prodongeau.